Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence là au micro. Oui, c'est le début de la semaine. Un lundi bien ensoleillé. Pas de pluie, pas de vent, pas de je ne sais quoi. On est bien gâté avec du soleil. Fulgence là au micro. Et puis, bon, en première partie d'émission, comme tous les lundis. Voilà, c'est vraiment commencé avec Louis Thibault qui va nous parler du temps qui passe et de ses effets sur notre corps et puis l'âge de chacun de nous, quoi. Bon, elle est bien placée, elle est mieux placée que moi pour parler de ça. Et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire 16h30, je vais recevoir Millie Alexandra Derry, qui est commissaire et qui va nous parler du 20e anniversaire de la Fonderie Darling, le centre d'art visuel à Montréal. C'est le seul centre d'art visuel de Fonderie Darling. Ouais, centre d'art visuel à Montréal. Elle va nous parler de l'histoire. C'est le 20e anniversaire. Hein? C'est pas deux jours, hein? C'est bien 20 ans. 20 ans, c'est bien compté là, 20 ans. Alors, tout de suite, pour ne pas. Et puis, après Louise, j'ai concocté quelques petite nouvelle pour vous aujourd'hui. Il y a le Nobel de médecine qui a été attribué à un généticien suédois. Voilà, je vais vous donner son nom un peu plus tard après Louise Thibault. Enfin, elle va nous parler de cette histoire de temps qui passe et ses effets sur notre corps et sur l'âge de chacun de nous. Bonjour Louise Thibault.
Bonjour Fulgence Blas.
Oui, alors qu'est-ce que cette histoire de temps qui passe et c'est... Faut pas me faire peur là, voilà.
Mais en fait, oui, je vais vous parler du temps qui passe, je vais parler de nos âges, mais en fait, oui, nous avons tous des âges différents, mais nous pourrions avoir plus d'un âge.
Oui, c'est ce qui fait que je dis, c'est l'âge de chacun de nous, quoi.
Il y a plus, enfin, on y viendra.
Voilà, d'accord. Alors, on
t'écoute. À la dernière minute, j'ai décidé d'ajouter un petit quelque chose à ma chronique, c'est-à-dire mon événement coup de cœur pour le mois d'octobre.
Ton événement coup de cœur.
Oui, c'est pas un livre cette fois-ci, c'est un événement.
Oui, c'est ce qui fait que j'ai répété. Je me suis dit, bon, ok, elle nous parle d'événement coup de cœur aujourd'hui, pas de livre coup de cœur. Ok, on y va, avec le temps qui passe.
On parle de la même chose, donc voilà. Alors, le temps qui passe, ça veut dire le temps qui s'écoule.
Le temps qui file.
Qui nous fait vivre longtemps.
Ouais.
En santé, on l'espère, physique et mentale.
Oui.
Et puis, il faut regarder autour de nous pour s'encourager parce qu'il y a des... Vivre longtemps, on peut vivre longtemps en étant en forme et en gardant aussi toute sa tête, en ayant un cerveau qui vieillit bien.
Ouais, ça c'est...
Et puis ça me préoccupe parce que ma formation c'est en neurosciences, comme vous le savez, et un cerveau qui vieillit bien, souvent on a tendance à associer ça à la mémoire. Hein. Bon, oui, c'est important la mémoire.
Oui.
Mais il y a aussi autre chose, d'autres facultés intellectuelles qui nous permettent de mieux vieillir. Par exemple, un cerveau qui vieillit bien, c'est un cerveau qui nous permet de garder un bon jugement, de bien prendre des bonnes décisions,
oui.
De bien raisonner, de bien réfléchir.
Oui,
et il n'y a pas que la mémoire là, dans les facultés intellectuelles, il y a autre chose. Et de bien gérer sa vie.
Mm-hmm.
Et puis la vie, il y a des moments de joie, il y a des moments de stress, alors tout ça. Et puis un cerveau qui vieillit bien, c'est aussi un cerveau qui nous permet de former de nouveaux souvenirs.
Mm-hmm.
Alors comment faire pour former de nouveaux souvenirs? Souvent, il faut un peu forcer les choses. Il faut faire des activités qui ne sont pas trop passive, par exemple, ne pas toujours écouter la télé ou la radio, sauf les belles émissions de Fulgence Blas, évidemment.
Ah, oh, merci.
Ces émissions-là, vous apprenez des nouvelles choses, donc ça vous permet de faire des nouveaux souvenirs. Et puis, on parle beaucoup de jeux vidéo, ce qui n'est pas toujours très efficace pour garder le cerveau jeune, mais pensez, par exemple, à apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique. Alors tout ça, ça a été prouvé pour être de bonne façon pour garder un cerveau jeune,
oui.
Bien vieillir.
Mmh.
Et puis aussi, c'est important de bien performer, mais aussi de rester motivé. Alors la motivation à faire des choses, ça aussi, ça fait partie de bien vieillir. Hein, se sentir énergique et alerte, mais aussi être motivé. Et j'aimerais vous dire aussi qu'un cerveau qui vieillit bien, c'est un cerveau qui nous permet de mieux s'épanouir.
Oui, ça c'est clair.
Ouais, c'est important c'est... aussi.
Mm-hmm.
Donc, que faire pour bien vieillir dans sa tête? Bon, Alors, je vous ai déjà parlé de faire de l'activité physique et j'y reviendrai aussi souvent qu'il le faut parce que c'est éprouvé, l'activité physique.
Oui, parce que ça concerne chacun de nous.
Mais si on veut prendre des marches rapides, eh bien, ça, c'est très, très important pour bien vieillir physiquement et intellectuellement. Mmh. Acquérir de nouvelles connaissances en écoutant des émissions qui vous donnent des informations, mais aussi de nouveaux apprentissages. Alors, si je vais vous en parler, de nouveaux apprentissages à la fin de ma chronique, mais... par exemple, ben, je vous ai dit apprendre une nouvelle langue, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait. Alors, il y a les journées de la culture qui vont arriver bientôt, je crois, et puis qui vont vous permettre de d'être exposé à de nouvelles choses. Apprenez le macramé, le batik, apprenez à faire du crochet.
La journée de la culture, c'est pas la fin de semaine qui vient de s'écouler, là?
Ah, ben je pense que oui.
Ça vient de passer, oui. C'était du 30 au... Voilà, cette fin de semaine qui vient de s'écouler.
Ah, alors, ceux d'entre vous qui ont assisté...
Mais il y a tellement d'événements de nos jours à Montréal, voilà.
Alors, ça vous ouvre à de nouvelles façons de passer votre temps. Mm-hmm. Et puis, la nutritionniste en moi vous dit que il y a beaucoup d'aliments qui pourraient permettre à votre cerveau de mieux vieillir.
Wow.
Alors, c'est logique. C'est logique de penser que l'alimentation nous permet de mieux vieillir parce que notre alimentation, celle de notre mère et l'alimentation qu'on a eue au cours de notre vie fœtale, eh bien, elle a eu un effet direct sur le développement de notre cerveau.
Oui.
Cette alimentation-là. Et même à l'âge adulte, notre alimentation prépare la façon dont notre cerveau vieillit et influe sur le vieillissement du cerveau.
C'est tout un package qu'il faut prendre en compte, quoi.
C'est tout un paquet de chiffres, de facteurs.
Oui, oui, oui. L'exercice physique.
L'exercice, les loisirs, passe-temps et l'alimentation.
Wow.
Mais avant de vous en dire un peu plus sur l'alimentation, j'aimerais vous parler du vieillissement parce que c'est un sujet que j'ai développé à ma façon, dans mes écrits. Et puis quand on comprend c'est quoi le vieillissement? On peut arriver à mieux comprendre pourquoi l'alimentation peut nous aider à garder notre cerveau jeune.
Ouais.
Alors, le vieillissement, je crois que tu seras d'accord avec moi, c'est un phénomène très complexe. Quand on pense à c'est quoi vieillir au juste? Quand je donne des conférences et je demande qu'est-ce que c'est vieillir, et je demande ça à des personnes jeunes et moins jeunes, et bien là, j'ai toutes sortes de réponses.
Ah oui, c'est comme parler de bonheur et d'amour.
C'est ça, oui. Mais, alors, nos auditeurs ne peuvent pas me répondre, mais moi, je vais vous donner un petit peu d'indicateurs qui vont vous permettre de penser à c'est quoi vieillir.
Ouais.
Alors, le vieillissement, on peut le définir de plusieurs façons. Hein, vieillir, c'est avancer en âge. Ça, c'est simple. La première réponse, c'est facile.
Mmh.
Alors, mais qu'est-ce qui se passe quand on avance en âge? Alors, on est une petite cellule qui devient un fœtus. Et quand on est nourrisson, on devient jeune enfant, enfant, ado et adulte. Alors nous, c'est ça vieillir, c'est avancer dans le temps de façon très chronologique. Donc, vous l'avez compris, nous commençons à vieillir très tôt dans la vie. Le jeune enfant qui devient enfant, il vieillit.
Oui, le vieillissement commence déjà dans le ventre de nos mamans.
C'est ça, oui. Alors, c'est intéressant quand même comme perspective.
Wow.
Tenez, là, c'est pas rendu à 40, 50, 60 ans, 60 ans qu'on vieillit. On a commencé il y a très longtemps. Et puis, quand on a commencé à vieillir, il y a une foule de petits changements qui sont arrivés dans notre organisme. Et puis, ces changements, ils arrivent, ils s'accumulent jusqu'à ce que l'on meure.
Ah oui.
Et puis, on peut mourir à tout âge.
Oh, jusqu'à ce qu'on ne respire plus.
C'est ça, on n'est plus là, mais on ne meurt pas nécessairement à un âge avancé. Il y a des gens qui
meurent. Pas forcément, il y a des gens qui meurent très tôt.
C'est pas une question de vieillesse.
Il y a des gens qui meurent déjà à la naissance.
Et c'est ça, meurent en bas âge. Et puis, je ne vous parlerai pas de ce qu'on retrouve dans l'au-delà, parce que il n'y a pas de consensus universel à ce sujet-là, mais on peut espérer que il y a des belles choses qui se passent après la mort, mais ça, je n'en sais rien. Enfin, je n'en sais pas grand-chose. Ce qui me ramène, revenons à la vie. Lorsque nous vieillissons, on peut vieillir, on peut refuser de vieillir, Mais qu'on le veuille ou non, ben le temps passe, la vie passe. Et puis, il y a un certain déclin de nos fonctions, toutes sortes de fonctions, nos fonctions biologiques.
De tous nos organes, quoi.
De nos organes, et puis souvent, on le voit, hein, on le mesure, mais souvent, on ne le voit pas. On fait tout simplement le ressentir.
Oui.
Et puis, on ressent ce qui se passe dans nos organes qui vieillissent et notre cerveau qui vieillit.
Oui.
Alors, il ne faut pas seulement se fier à ce que l'on voit, mais il faut penser à ce que l'on ressent.
Oui, ce que l'on ressent, ça c'est les organes internes, les organes externes. Ah. On voit un peu le relâchement, quoi.
C'est ça. Et puis, il y a les questions de l'âge. Hein. Souvent, on demande aux gens, quel âge as-tu? Alors, on pourrait répondre deux... on pourrait avoir deux options.
Oui.
Une demande de... Oui. Parce que nous avons tous un âge chronologique, notre âge réel.
Oui.
Et il y a l'âge biologique.
Ah.
Alors, vous avez peut-être connu, vous connaissez peut-être des personnes qui semblent ne pas vieillir aussi rapidement que d'autres, ou vieillir plus lentement que d'autres.
Oui, ça c'est dans les gènes, ça.
Et ces personnes-là, oui, c'est dans les gènes, et cette personne-là, elles auraient un âge biologique moindre que leur âge chronologique.
Oui.
Alors ça, des chercheurs l'ont mesuré dans des travaux scientifiques bien contrôlés, et ils ont trouvé des marqueurs biologiques qui peuvent déterminer l'âge biologique.
Oh.
Je vous en donne un exemple. Il y a une recherche qui a mesuré l'âge de milliers de personnes qui étaient âgées chronologiquement de 38 ans. Alors, leur âge chronologique, c'était 38 ans.
Oui.
Et à l'aide de plusieurs marqueurs de fonctions physiologiques et de fonctions intellectuelles, ils ont déterminé que leur âge de ces personnes de 38 ans, il variait entre 28 et 61 ans.
Wow!
Alors, il semble qu'on peut être biologiquement plus jeune ou même plus vieux que notre âge chronologique.
Chronologique.
Eh oui, et ça, c'est mesuré en laboratoire. On ne peut pas mesurer ça chez nous ou en allant chez le médecin, mais quand même.
Ah non. Ou bien en se promenant dans la rue pour dire, je vais essayer de détecter l'âge chronologique de la personne qui est en face de moi. Non, ça ne marche pas comme ça.
Alors, c'est une discipline scientifique qui est en plein essor, et puis, c'est intéressant. Alors, quand on vous demande quel âge avez-vous, vous pourriez demander, lequel de mes âges?
Bon. Lequel, ouais.
La question.
Il ne veut pas me dire son âge, il me demande lequel de mes âges. On a combien d'âges?
Ah ben oui, c'est ça. Alors
Quand on parle d'âge, on parle de nombre d'années, depuis quand on est né, quoi. Ça dit 20 ans, 15 ans, 40 ans, c'est ça que moi je connais, que tout le monde connaît.
Vous pourrez dire, mais il n'y a pas que ça.
Oui,
alors moi, j'ai écouté la chronique de Louis Thibault et puis voilà, on règle la question et on a...
Quand on dit âge, on associe toujours au chiffre du nombre d'années de naissance, voilà.
C'est ça, oui, d'accord.
Alors,
pour terminer, si tu me laisses quelques minutes, j'ai le plaisir de vous annoncer que dans ma Mauricie natale,
oui,
il y a présentement un événement qui s'appelle Rendez-vous de la gastronomie forestière.
En Mauricie.
À Mauricie, oui.
Mm-hmm.
Et puis, c'est dans le cadre de MICO. Alors, c'est la 6e édition. Je vais y participer.
Oui.
Et,
les dates?
Attendez un peu, c'est jusqu'au 10 octobre.
Ok, d'accord.
Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais je crois que du 30 septembre au 10 octobre, ça a commencé.
Oui, une semaine.
Donc, c'est ça. Et puis, je vous en parle parce que je vous ai déjà parlé de livres sur les aliments qu'on peut consommer dans la forêt. Donc, à l'honneur, ce sera les aliments comestibles dans la forêt, et incluant les champignons. Alors, parlant de champignons, c'est un sujet quand même parfois tabou. Hein. Les champignons, on dit « Ah, c'est dangereux, c'est mortel et
ouais,
tout. »
Ouais, c'est pas toutes les sortes de champignons.
Pas toutes les sortes de champignons.
Ouais.
Et je vais vous en reparler la semaine prochaine. Je veux tout simplement vous dire que j'ai fait une rencontre étonnante. J'ai rencontré Stéphane Lamana, qui est propriétaire de la Manne à Menoum. La Manne à Menoum.
C'est quoi ça?
C'est une ferme à grande pile J'y ai appris des choses étonnantes.
Il va falloir que tu nous en parles prochainement.
Non seulement à différencier les bons champignons des moins bons champignons, mais aussi toutes sortes de choses sur la gastronomie forestière.
Wow.
Et j'y retourne le week-end prochain. Donc voilà, la manne à menoum. Pourquoi menoum? Ben menoum, ça veut dire oh, c'est bon. Quand on dit menoum, menoum, ça veut dire
le
dialecte québécois, c'est ça.
Merci beaucoup, Louise.
T'en prie. Et puis, ben, je vous reviens, je ne sais pas quand je vous reviens, je reviens lundi prochain ou mardi prochain ou quand.
Je te laisserai savoir.
C'est ça, laisse-moi savoir. Donc, oui. J'aurai plein de matériel pour vous parler.
Si on est fermé lundi le 10, bon, ben, on se revoit la semaine d'après, quoi.
Semaine d'après, OK.
OK. Voilà.
Que ça va me laisser 2 semaines pour mijoter tout ça.
C'est ça.
Donc, je vous souhaite une excellente fin de chronique à tout le monde et puis à dans 2 semaines.
Merci beaucoup, Louise.
Oui. Au revoir.
Au revoir.
These days, I need you to know there ain't no games I'm playing. I don't want nobody else. This love is here to stay. All I want is to be what you want, baby. Show me the way. She said, love me.
Merci beaucoup, Ney, you handle me gently. Voilà, je veux parler. Papa, c'est tout nouveau, c'est tout. C'est aujourd'hui hein, que ça a été fait le Nobel de médecine attribué à un paléogénéticien suédois. Voilà, c'est la semaine, c'est toute une semaine entière. Hein. Je vais parler de prix Nobel ici. Hein. Ça a commencé aujourd'hui avec le prix Nobel de médecine. Ça va continuer demain jusqu'au 10 octobre. Oh, ouais. Paix, littérature, physique, chimie, économie. Ça a démarré avec le prix Nobel de médecine. L'officialisation des Nobel 2022 a eu lieu aujourd'hui à Stockholm, en Suède, bien sûr, ce lundi 3 octobre. Ça va jusqu'au 11, même pas le 10, un jour plus tard. Ouais. 6 prix Nobel doivent être dévoilés à raison d'un par jour, en dehors des week-ends, ceux de médecine, physique, chimie, littérature, paix et économie. Donc, le Nobel de de médecine a ouvert le bal ce lundi. Il a été décerné au paléogénéticien suédois Svante Paabo pour ses découvertes concernant les génomes des hominidés éteints et l'évolution humaine. Il faut parler bien sûr des hominidés éteints, des homo sapiens. Alors le prochain, bon, c'est tout quoi, voilà, c'est la fin de ce live aujourd'hui, dont tout le monde était accroché là-bas, ceux qui ont l'heure d'Europe, ils étaient devant la télé pour voir qui, moi je n'ai pas pu suivre ça, il faut le dire, parce que c'était trop tôt chez nous ici. Alors je me suis dit, mieux vaut en parler, pourquoi pas. Donc c'est lui, ce monsieur-là, ce Suédois, qui a décroché ce prix Nobel de médecine 2022. Voilà, on dit bravo, félicitations. Et puis demain, c'est quelque chose d'autre, hein. Je vais vous donner la liste d'ailleurs. Et qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui ne suit pas? Prix Nobel de médecine, surreprésentation des chercheurs américains. Effectivement, c'est vrai. Hein. Quand on voit la liste des nominés, là, ces dernières années, les chercheurs américains basés aux États-Unis, il y a des chercheurs qui sont non américains, qui sont basés aux États-Unis, de sexe masculin, qui sont encore surreprésentés dans l'attribution des Nobel scientifiques. Personne ne peut dire le contraire. Et ce, malgré les efforts des jurys pour récompenser notamment davantage d'ailleurs de femmes. Donc le millésime des Nobel 2021 l'a encore démontré avec 12 lauréats et une seule lauréate. Alors, donc à faire un effort. Et pourtant, il y a beaucoup de plus en plus de femmes qui sont dans le milieu scientifique, ça il faut le dire. Et l'ensemble des prix scientifiques attribués à des hommes. Ah, l'effort doit être fait. Voilà. Donc le verdict du Nobel de médecine 2022 a été fait. L'identité est connue maintenant. Voilà, c'est un Suédois. Il est chez lui. On lui dit bravo, on espère que l'année prochaine ça va donner autre chose quoi. Voilà, demain c'est quoi? Annonce du Nobel de physique. Voilà, et puis le chétier. Demain mardi, physique. Et mercredi c'est quoi? Chimie. Et littérature, ça va être le jeudi 6. Et vendredi 7, ça va être le prix Nobel de la paix. Et le lundi 10, ça va être le prix Nobel d'économie. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ces grosses têtes, pas ces grands messieurs, ces grandes dames qui font des découvertes, des recherches, des années. Alors, vous pouvez suivre ça demain. Demain, je vais parler celui qui a gagné, c'est le prix Nobel de physique. Et puis mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite, là, jusqu'au lundi, 10h. Lundi, on ne sera pas là, donc je vais en parler. Si je ne me trompe pas, je vais en parler le mardi. Voilà, c'est comme ça. Et c'est le paléogénéticien suédois Svante Paabo qui décroche ce prix et pour sa découverte concernant les génomes des hominidés éteints et l'évolution humaine. Selon le Larousse d'ailleurs, et l'hominidé est un mammifère primate à locomotion partiellement ou totalement bipède, c'est-à-dire avec deux pieds. Voilà, c'est ça. Les singes là qui se mettent sur les deux jambes en arrière pour marcher comme nous là. Représente de fortes aptitudes à la vie sociale et à l'apprentissage tels que l'homme actuel et les espèces fossiles les plus voisines considérées comme des ancêtres passés possibles de notre espèce. Donc le scientifique suédois est primé pour ses travaux sur le séquençage du génome de l'homme néandertal. Voilà, le néandertal et la paléogénomique. On pourrait le surnommer l'homme qui fait parler l'ADN des hommes et des femmes préhistoriques. Voilà, c'est le surnom qu'on lui a donné d'ailleurs. Ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous humains, voilà, des êtres aussi uniques. Ouais, c'est ça, c'est les différences génétiques entre Homo sapiens et nos plus proches parents, aujourd'hui éteints, étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce aux travaux de Paabo. Voilà, a précisé le comité Nobel. Il a 67 ans, ce monsieur, Svante Paabo, qui a découvert qu'il avait eu transfert de gènes. Voilà, on lui souhaite ça. Ouais. C'est un flux ancien de gènes vers l'homme d'aujourd'hui qui entraîne un impact physiologique, c'est ça. Il affecte par exemple, la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. Ouais, c'est pas mal, hein. Donc, le père, et puis son père aussi avait déjà reçu un prix comme ça, hein, en 1982. Ouais, ouais. Le père de Svante Paabo, Sonne Bergström, avait lui aussi reçu le prix Nobel de médecine en 1900, Ah, la pomme n'est pas tombée loin du pommier, ça on peut le dire. J'ai encore du temps. La pomme n'est pas tombée loin du pommier. Ouais. Alors rapidement, là, je vais parler de la 25e session de Danse Danse, un voyage à la découverte du meilleur de la danse contemporaine. 25 ans d'existence Danse Danse. Oui, avec une saison aussi variée que grandiose. 11 spectacles, dont 2 mettant l'immense chorégraphe Pina Bausch à l'honneur. Elle ne vit plus, attention là. Mais sa fondation, son groupe, en complicité avec l'École des Sables, Pina Bausch Foundation, c'est une Allemande, de Wuntertal. Alors, avec l'École des Sables, voilà, ça commence déjà le 5 au Théâtre de Maisonneuve, du 5 au 8 octobre. Oui, en présence, oui, en présentiel, comme on dit. On peut se déplacer en salle, c'est pas cette fois-ci virtuel. Parce que ce qu'on a eu comme spectacle il y a un an ou bien deux ans, en EA, l'année passée ou bien en 2020, c'était virtuel. Cette fois-ci, c'est physique, hein, en présentiel. On sera tous dans la salle là-bas pour ceux qui ont déjà leur billet, bon, qui n'ont pas encore, vous avez le temps jusqu'au... ça commence le 5, ça dit après-demain, mercredi, jeudi, vendredi, et puis le 8, c'est fini, quoi. Et puis, du 6 au 8 en même temps, il y a, en matière de musique classique, il y a l'harmonium symphonique, la création originale JSI Music, Orchestre Symphonique de Montréal, la salle Wilfrid Pelletier. Voilà, ça c'est tout ça, c'est la place des arts. C'est, allez-y. Musique du monde, il y a Kila Pawin du Chili qui sera en concert le 9 octobre au Théâtre Maisonneuve, après, juste après l'événement de Danse Danse avec Pina Bausch Foundation et l'École des Sables. Il y a, ça c'est le sac du printemps. Voilà, c'est la fameuse pièce de Pina Bausch qui nous a quittés, si je ne me trompe pas, en 2009, quelque chose comme ça. Voilà. Ah, on va... Ouais, j'ai encore quelques petites secondes là pour dire merci. Reste à l'écoute. Et puis bon, après la petite pause publicitaire, je reçois mon invité, Émilie Alexandra Derry, commissaire, qui va nous parler du 20e anniversaire de la fonderie Darling, centre d'art visuel à Montréal. Tu vois, qu'est-ce que ça a à voir, une fonderie, qu'est-ce que ça a à voir avec un centre d'art visuel à Montréal? Vous allez comprendre. Reste à l'écoute à partir de 16h30.
Vous écoutez Escal 16-17 avec Fulgence Blas.
Ouais, pour ceux qui viennent de nous prendre en marge, mais oui, c'est la deuxième partie de l'émission avec notre invité qui est déjà au bout du fil, Émilie Alexandra Derry, qui est commissaire, qui va nous parler de ce 20e anniversaire de la fonderie Darling, centre d'art visuel à Montréal. Elle est commissaire et travaille comme commissaire, bien sûr, à la fonderie Darling. C'est un centre d'art visuel à Montréal. Après avoir obtenu un MBA en histoire de l'art et en études russes de l'Université McGill, elle a complété une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Montréal. Ses intérêts de recherche actuels portent sur les conditions et stratégies de résistance par la réappropriation de l'espace. Elle a écrit des comptes rendus d'exposition et des portraits d'artistes pour les revues Espace Actuel, Ciel Variable et autres, et contribue à divers projets comme auteur invité. Et puis elle a assuré aussi la direction artistique éditoriale de la publication monographique Of Things of They Happen to Be. Elle a reçu la pratique de Janet Jones et a écrit pour le livre d'artiste Plascare, édité par Rome, et puis depuis 2012, elle siège sur le conseil d'administration de l'Association internationale des critiques d'art du Canada. Alors, bonjour, Émilie Alexandra Derry.
Bonjour, monsieur Blas, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Voilà, appelez-moi simplement Fulgence, là, monsieur Blas, c'est trop costaud pour moi.
Bonjour, Fulgence.
Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, comment ça se passe, là, le 20e anniversaire? Dites-nous.
Ça se passe très bien. On est vraiment très heureux d'avoir pu lancer notre programmation anniversaire avec l'ouverture de l'exposition.
Oui.
L'enveloppe et je te contiens.
Oui.
Le premier volet des célébrités, des célébrations de notre programmation d'automne.
Oui.
Donc, c'est un beau départ. On a une belle réception critique, une belle couverture médiatique et des visiteurs dans nos salles. Donc, on est vraiment très heureux.
Ouais, oui, oui, oui. Parle-nous un peu de l'histoire de cette fonderie qui est devenue un centre d'art visuel à Montréal. C'est l'unique, hein?
Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une histoire assez extraordinaire, celle de la fonderie Darling. La fonderie Darling, c'est tout d'abord une ancienne fonderie de métal, donc un bâtiment industriel qui a été sauvé de la démolition,
oui.
Puis reconverti en centre d'art.
Oui.
Donc, au tout début, une entreprise qui appartenait aux frères Darling, fonderie métal qui travaillait la métallurgie, la reconversion de pièces d'armes, de pièces pour des bateaux également, puis qui a été laissé à l'abandon pour une dizaine d'années, donc dans les années 90.
Oui.
Juste avant que le projet soit repris par l'organisme Quartier Éphémère.
Oui.
Quartier Éphémère, c'est un organisme à but non lucratif fondé et dirigé par Caroline Andrieux,
oui.
qui est également directrice artistique et fondatrice de la fonderie Darling.
Oui.
Un organisme qui a comme vocation la reconversion de friches industrielles en lieux d'art contemporain au profit, au bénéfice des artistes et de la communauté.
Wow! Quel est le rôle d'une commissaire au sein d'un centre d'art visuel comme ça, de la fonderie? Quel est le rôle d'une commissaire? Quand vous arrivez au bureau, je ne sais pas si vous avez votre bureau à l'intérieur de la fonderie, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que commissaire? Dites-moi, dites-nous ça.
Oui, donc tout à fait. Je travaille sur place à la fonderie Darling. Donc, tous les jours, nos bureaux font aussi partie du bâtiment industriel qui a été reconverti.
Oui.
Donc, c'est un espace ouvert, collaboratif. À la fonderie Darling, on est une petite équipe.
Oui.
On est une dizaine d'employés. C'est une petite équipe, considérant que c'est un lieu qui est très, très grand. On parle de 35 000 pieds carrés qui sont divisés en expositions, salles d'exposition et résidences d'artistes. Donc, oui, écoutez, le travail, pour répondre à votre question, le travail de commissaire, c'est vrai que ça peut être assez abstrait pour beaucoup de gens.
Oui.
En anglais, c'est un terme qu'on identifie peut-être un peu mieux, curator. L'idée, en fait, c'est vraiment de... Bon, il y a plusieurs manières d'entrevoir le métier, d'entrevoir la façon dont on travaille avec les artistes.
Oui.
Mais je vous dirais que c'est vraiment un travail de conception, un travail d'organisation, d'exposition. C'est un travail d'accompagnement aussi, de travail vraiment en collaboration, en proximité avec les artistes. Donc, c'est un peu... Le travail derrière la scène, si on veut, pour mettre en place des expositions, que ce soit des expositions de groupe ou des expositions individuelles.
Oui.
Donc, bon, ça inclut de la recherche, de l'écriture, aussi, bon, de la scénographie, de la mise en place technique. Donc, c'est bon, la question budgétaire aussi, évidemment. Donc, c'est
ouais, parce qu'il faut aller chercher les sous, hein, de l'argent.
Oui, tout à fait. C'est pas une composante qu'il faut négliger.
Voilà. Alors, quels sont les artistes qui seront là présents durant ce 20e anniversaire? Et donc, d'ailleurs, je suis tellement, j'adore tellement le thème. Hein. Tu m'enveloppes et je te contiens de l'exposition, hein, de ce 20e anniversaire. C'est vous qui avez choisi ce titre?
Non, en fait, c'est un titre qui a été choisi par Caroline Andrieux. Donc, en fait, Caroline et moi avons travaillé de concert pour élaborer la prémisse de l'exposition. Donc, on est une toute petite équipe à la fonderie, mais bon, notre équipe de programmation est composée de la directrice artistique, la commissaire, le responsable des programmes publics et
oui.
la responsable des communications aussi, qui vraiment on travaille en équipe. Et Caroline a proposé ce titre il y a déjà plusieurs, j'ose dire plusieurs années.
Oui.
C'est un titre en fait qui est tiré d'une pièce de théâtre écrite par Jean Genet,
wow.
Qui s'intitule Le Balcon. Puis c'est tiré d'un extrait, un dialogue amoureux entre deux personnages où, suite à un « je t'aime », ils se répondent mutuellement « tu m'enveloppes et je te contiens ».
C'est très poétique.
C'est très poétique pour nous. C'était une façon aussi d'aborder la question des rapports qui peuvent exister entre le travail de l'artiste et celui du commissaire.
Oui.
Souvent, autant à séparer... à séparer les deux, à les mettre en opposition, mais en réalité, en art actuel, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des stratégies du commissariat, que ce soit d'interpréter, de synthétiser, de présenter un objet, de transformer un espace. Donc, des gestes qui peuvent être associés au travail de commissaire qui sont repris dans le contexte d'une pratique artistique. Donc, pour nous, c'était un peu une façon de tu m'enveloppes et je te contiens, d'adresser ce rapport quelque peu fusionnel qui peut exister entre l'artiste et le commissaire, entre leur rôle et...
OK. Merci bien. Pour ceux qui ne savent pas, cette exposition a commencé. Tu m'enveloppes et je te contiens. J'adore. Ça a commencé depuis le 22 septembre et ça va jusqu'au 11 décembre 2022. Alors, ne dites pas, voilà, j'ai raté parce que non, il y a du temps là, il y a du temps. Mais n'allez pas à la dernière minute là pour ne pas avoir le temps de tout voir. Quels sont les artistes qui seront là au cours de cette exposition? Quels sont les artistes que vous avez pu regrouper ou bien pu convaincre pour exposer leur œuvre, si on peut dire ça comme ça?
Oui, tout à fait. Mais vous faites bien de souligner qu'en effet, l'exposition se tient jusqu'au 11 décembre. On a également à la Fonderie des arts d'ouverture qui permettent aux gens de venir voir l'exposition en dehors d'un 9 à 5 ou des journées traditionnelles. Par exemple, le jeudi soir, on est ouvert jusqu'à 22 heures. Donc, on essaie vraiment d'accommoder les gens pour avoir le plus de plage horaire possible. Puis, on a été très chanceux pour cette exposition. On a vraiment réussi à rassembler des artistes qui, d'une manière qui était très rassembleuse et cohérente. Mm-hmm. Donc, Christophe Barbeau, un artiste originaire de Québec qui est basé à Toronto.
Oui.
Samir Farouk qui est basé à Toronto aussi. Nakita Feldman-Kiss, une artiste de Montréal. Alexis Gros-Louis, un artiste de Wendake qui est basé également entre Montréal et Wendake.
Oui.
Alexia Laferté-Coutu, Alexia Laferté-Coutu, une artiste de Montréal également. Marion Lefer, un collectif basé à Montréal, qui est également en résidence à la Fonderie d'Arling.
Oui.
Guillaume Adjutant-Provost, qui a tout récemment déménagé à Moncton, et Steve Giasson, Lan Florentilly, ainsi qu'un duo, Catherine Escarbeau et Manouchka Larouche.
Oui.
Vraiment une belle liste d'artistes qui représentent la scène montréalaise, également des liens avec Toronto. Donc, c'est vraiment une exposition assez locale.
Une belle prochette oui. D'artistes. Moi, j'ai vu ça, je suis allé parcourir un peu leur parcours, leur CV, qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai dit, mais waouh, comment est-ce que vous avez pu mettre la main sur ces... Ils doivent être contents de faire partie de cette exposition qui a démarré depuis le 22 et qui va se terminer le 11 décembre. Et puis, la journée de jeudi, ça va jusqu'à 22h. Sinon, vendredi, samedi, dimanche, de 12h à 19h. Et c'est situé au 745 rue Ottawa, à Montréal. C'est bien ça. Voilà, ça c'est effectivement. Je vais revenir un peu. Revenons un peu sur le financement. Comment est-ce que Quartier Éphémère a pu, je ne sais pas, il y a 20 ans, comment ils ont pu avoir ces vieux locaux qui appartenaient d'ailleurs à cette famille Darling qui avait cette fonderie de métallurgie, si on peut l'appeler comme ça. Et puis, de là, en faire de ça un lieu artistique, un centre d'art visuel. Je dis bravo à cette équipe, hein.
Oui, tout à fait. Mais quand je vous parlais de l'histoire extraordinaire de la Fonderie d'Arling, c'est notamment par rapport à ses conditions d'émergence ou sa genèse. C'est assez impressionnant qu'un organisme à but non lucratif...
En plus, oui!
Oui, tout à fait. Ait pu investir de tels espaces. Mm-hmm. Un bâtiment désigné patrimonial, un bâtiment industriel qui reflète l'histoire ouvrière montréalaise de manière très, très sensible et importante.
Oui.
En fait, donc, la Fonderie d'Arling, lorsqu'elle a été abandonnée, lorsque les activités de l'entreprise des Frères d'Arling ont cessé,
oui,
elle a été rachetée par la Ville de Montréal.
Ah.
Puis,
okay.
En fait, c'est grâce au travail des gens qui travaillaient pour Quartier Éphémère dans les années 90, qui ont réussi à convaincre la ville de nous laisser occuper le bâtiment gratuitement, en guillemets, en échange de trouver un financement pour rénover le bâtiment. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'après 10 ans à l'abandon, il y avait des rénovations assez importantes qui devaient être réalisé.
Ça a coûté des millions, ça?
Oui, non, exactement. Donc, il y a eu un grand travail pour trouver du financement public, du financement privé.
Oui.
Et depuis ce temps, la fonderie a une entente avec la ville où nous sommes locataires du bâtiment en espérant un jour viser une acquisition. Donc, un bail emphytéotique.
Wow! Ah, je vous le souhaite, hein? Je vous le souhaite, ça, sincèrement. Bon, en dehors de ça, bon, quand cette exposition sera, en dehors de cette exposition, est-ce que les artistes exposent, il y a des artistes qui sont en résidence là-bas, parlez-moi un peu de ces lieux. C'est un lieu de résidence, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Et puis, quand je vois un peu le profil là, des artistes originaires de partout, hein, des Caraïbes, du Japon, de l'Afrique du Sud, de la France, de la Catalogne, d'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Inde, de la Corée du Sud et de la République tchèque. En tout cas, la liste est très longue, on ne va pas tout citer ici. Sans oublier nos artistes nationaux, hein, Owen Oranda, Rimouski, Gaspé, entre autres. Mais comment vous faites pour mettre la main sur ces artistes en provenant de ces différents pays en dehors du Canada?
Oui, en fait, la Fonderie Darling, c'est vraiment un lieu de vie. Donc, c'est vraiment un écosystème. À la Fonderie, nous avons 13 ateliers d'artistes. Donc, dans le bâtiment adjacent aux salles d'exposition, 13 studios qui sont réservés pour des artistes de Montréal et pour des artistes de l'international.
Wow.
Depuis plus de 20 ans, la Fonderie Darling accueille des artistes de partout dans le monde pour des résidences plus ou moins longues. On parle d'entre 3 à 6 mois en général.
Oui.
Bon, il y a plusieurs manières d'envisager des résidences d'artistes à la Fonderie. Souvent, ça va être un partenariat avec d'autres institutions de l'international.
Oui.
Donc, des échanges. Par exemple, on a eu des partenariats avec le MOCO à Montpellier, Max Pion avec le musée de Séoul.
Oui.
Après, bon, il y a des programmes Accès Libre où c'est les artistes de l'international qui vont appliquer à des programmes. Mais bref, je voudrais que la Fonderie, au fil des années, après 20 ans, a réussi à se tailler une belle place.
Oui, a pu faire sa renommée personnelle. Oui, oui.
Exactement, à rayonner. Bon, je voudrais qu'il y ait beaucoup de bouche à oreille aussi. Les artistes se parlent entre eux,
oui.
se recommandent des résidences à travers le monde. Puis la Fonderie fait partie d'un certain réseau de résidences internationales. Donc, on est vraiment très contents à chaque année de voir l'enthousiasme lorsqu'on fait des appels à candidature.
Ouais, je vous dis bravo, merci. Et puis, de toute façon, avec les nouvelles technologies, les artistes à travers le monde entier n'arrivent pas de communiquer entre eux. Hein. Ça, il faut le dire.
Oui.
Mmh. Ça, c'est quelque chose qui... Alors, avant de vous laisser partir, un dernier mot à ceux qui nous écoutent, qui aimeraient aller faire un petit saut là-bas pour voir cette exposition, d'ailleurs. Et bon, j'adore le titre. Un dernier mot à nos auditeurs avant de vous laisser partir. Même si c'est jusqu'au 11 décembre, comme je disais auparavant dans la conversation, n'attendez pas le dernier jour. Allez-y, prenez le temps d'aller vous rincer les yeux, comme on dit, pour le plaisir des yeux du bonheur, et mettre quelques couleurs sous vos paupières avant de sortir de cette grande exposition-là. Alors, un dernier mot. Je vous laisse le micro.
Oui, ben, tout à fait. Je pense que vous faites bien de souligner que l'exposition, je voudrais que c'est la première étape de nos célébrations. Donc, vraiment, il y a de très belles nouvelles qui s'en viennent cet automne pour la Fonderie Darling.
Oui.
Il y a une publication anniversaire, donc un catalogue qui retrace la genèse de Quartier Éphémère de la Fonderie Darling qui va être lancée le 27 octobre prochain.
Oui.
Également, de très belles nouvelles concernant... le développement de l'organisme. Il y a également une soirée rave à envisager au mois de décembre. Également, une campagne de sociofinancement qui accompagne cette programmation anniversaire pour tout l'automne.
Oui.
Donc, vraiment, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site web. La Fonderie Darling a également une infolettre mensuelle où à laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir une bonne idée de l'ensemble de nos activités.
Oui.
Puis vraiment, c'est un lieu qui... je précise aussi, c'est intéressant, on est gratuit les jeudis, donc l'entrée est gratuite les jeudis.
Tous les jeudis, c'est gratuit.
tous les jeudis, c'est gratuit. Ah, ouais. Donc, pour nous, c'est très important d'être un lieu accessible. Tout le monde est bienvenu. Donc, vraiment, venez célébrer avec nous les 20 ans de la Fonderie Darling.
Merci beaucoup, Mélie Alexandra Derry, commissaire de la Fonderie Darling, ce centre d'art visuel à Montréal qui est situé. Redonnez-nous encore l'adresse, s'il vous plaît.
Donc, c'est au 745 rue Ottawa, dans le Vieux-Montréal.
Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation en tant que commissaire. J'espère que je vais vous réentendre. On va se reparler pour une autre exposition. Ouais.
Avec grand plaisir, Suzanne. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt pour notre programmation. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci. À vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Mm-hmm.
Q Twins, ouais, ces deux sœurs, Virginie et Vigi, voilà, avec la complicité de Big Zulu, Alouza Fanny, c'est le titre de la pièce. Bon, là, on tire à la fin tout doucement de l'émission, comme ça, je vais parler de Le Tourne en plein volume au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Voilà, Basquiat et la musique, dès le 15 octobre, vous allez découvrir la première grande exposition multidisciplinaire consacrée à la place de la musique dans l'œuvre de Jean-Michel Basquiat. considéré comme l'un des artistes les plus novateurs de la seconde moitié du XXe siècle. Hein. Voilà, vous réservez vos billets. Voilà, même si c'est, si c'est gratuit, c'est une exposition, mais réservez vos billets, ce serait beaucoup très apprécié de la part du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bon, et puis assister à la conférence d'ouverture de Sing Loud de Basquiat and Music le 12 octobre avec l'artiste Michael Hoffman qui a cofondé le groupe de musique Grey aux côtés de Jean-Michel Basquiat. Voilà, cours en ligne, au Tétra, c'est là où t'entends d'aujourd'hui. On va découvrir le dynamisme et puis la richesse de la création visuelle des premiers peuples du Québec et du Canada en assistant à un nouveau cours en ligne ouvert à toutes et à tous. Pour ceux qui aimeraient bien découvrir la découverte de l'art autochtone, fruit d'une collaboration entre le département d'histoire de l'art de l'UQAM et la conservation du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc ce cours propose une lecture inédite de l'histoire et s'appuie aussi sur des œuvres et objets issus des collections d'art moderne et contemporain du musée. Voilà, du 17 octobre au 4 décembre 2022. Et puis à l'École des Beaux-Arts aussi, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas. Hein? Ah, c'est pour ceux qui se nourrissent de l'art. Voilà. L'École des Beaux-Arts est de retour d'octobre à décembre 2022. Vous pouvez choisir votre cours parmi une multitude de pratiques artistiques, calligraphie japonaise, pastel sec, argile ou encore dessin en perspective. Voilà, ne tardez pas, les places sont limitées, s'envolent très vite, très vite. J'ai connu des gens l'année passée qui voulaient s'inscrire, mais ils ont tellement tardé qu'ils n'ont même pas pu s'inscrire. Ça s'envole très vite. Les gens sont tellement intéressés à faire de l'art actuellement, surtout le pastel sec, la calligraphie japonaise, l'argile ou encore dessin en perspective. Les places s'envolent très, 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 très vite. Et puis en matière de collection, il y a la collection d'art décoratif et de design fait peau neuve. Le pavillon Liliane et David M. Stewart consacré aux arts décoratifs et aux dessins s'apprête à subir une cure de jouvence. Voilà, je sais pas, des gens ils disent plus de gens de jouvence ou mais je ne sais quoi. Une cure de jouvence et sera fermée à partir du 10 octobre. Profitez des prochains jours pour le visiter, notamment le 2, le 3, le 4 et autres, là, le 10 est fermé, hein, voilà. C'est donc, comme chaque premier dimanche du mois. Allez-y. L'accès est gratuit. Profitez-en. Ne dites pas que la culture coûte cher. Je n'ai pas assez de moyens financiers pour me nourrir de la culture. Tout n'est pas payant à Montréal, surtout. Pour ceux qui sont dans les grandes villes comme Montréal, Sherbrooke et Québec, je pense bien qu'il y a beaucoup d'activités culturelles qui sont à la portée du public, voilà, de monsieur, madame, tout le monde, ça dit que c'est pas cher, ou bien c'est complètement gratuit, profitez-en. Voilà, et puis à la salle Bourget, Quator Debussy, Muse, c'est un conseil qui est conçu pour comme un voyage intime au cœur des sentiments originels qui sont l'amour, l'absence, la jalousie et la haine. Voilà, une incursion dans l'œuvre de quatre grands compositeurs d'Europe de l'Est qui, voilà, chacun à leur façon, bien sûr, évoque la figure intemporelle de la muse. Allez, vous pouvez acheter vos billets maintenant. Cinéma du musée. Vous savez, le musée de Beaux-Arts fait tout. Hein. C'est pas seulement exposer des tableaux et puis c'est tout. Cinéma, musique, il y a tout. Il y a tout. Au cours de peinture, de création, des ateliers. Tout se passe d'abord au musée des Beaux-Arts de Montréal. Voilà. Cinéma, votre programme cinéma, c'est aller découvrir le film qui représentera le Canada dans la course aux Oscars 2022, Printemps éternel de Jason Loftus, avec avec sous-titre français ou anglais selon les séances d'ailleurs, et ainsi que les films documentaires 305 Belle Chasse de Maxime Claude Lécuyer, et Fuir de Carole Laganière. Et ne manquez pas la séance spéciale de M de Fritz Lang. Ça, c'est aussi important. Hein. Ça, c'est des choses qui te disent... Ouh, voilà, ils ont un programme T, toujours avec sous-titrage ouais, français, dans le cadre de leur cycle ciné-histoire. Et puis, il y a la nouvelle exposition de Jean-Baptiste Basquiat. Alors, on est à la fin de l'émission, vous entendez le générique de l'émission. Merci à toi, Maurice. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, si je ne me trompe pas. Merci à Louise Thibault qui est venue nous parler du temps qui passe avec nos âges. Et puis à notre invité, Milly Alexandra Derry. Merci à vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, d'être avec nous. Prenez soin de vos minutes et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Sur ce, je vous dis ciao. Yeah.